Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Crypto Sapiens Adrien. Ça fait déjà 15 jours. Le temps passe si vite. On est vraiment dans un microcosme dans la crypto où les quinzaines passent presque comme des journées et les mois s'égrènent encore et encore. Et là, maintenant, sur ce 10 septembre, au moment où nous enregistrons cette émission, en effet, on est à seulement une petite semaine de cette fameuse potentielle baisse de taux et avec un Jérôme Powell qui, pour l'instant, a été pas mal pressé par l'administration de Trump, mais n'a pas donné de directives claires et précises. Et on a un consensus qui, aujourd'hui, attend à 100%, d'après les paris prédictifs, une première baisse de taux à minima de 0,25. Certaines parlent d'un jumbo de 0,50, mais pour l'instant, voilà, on en est là. Et c'est vraiment sur cette fin d'année, d'un point de vue justement de la liquidité, que ça pourrait débloquer du risk on, risk off. Et justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui vis-à-vis de l'analyse on-chain. Est-ce que les gens sont prompts à prendre du risque? Est-ce que du côté du Bitcoin, les choses sont en train de se poser avant la fameuse dernière jambe haussière, ce qui pourrait là aussi débloquer un peu plus de sursaut côté altcoin par la suite, si on capitalise plus. C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec Adrien, donc Crypto Sapiens. Super ravi de te retrouver pour ce troisième épisode.
Eh bien, idem, c'est à m'écouter. Bonjour à tous et merci encore d'être présent sur cette vidéo. Comme tu l'as très bien dit, je pense que avec tout ce flou que l'on a sur le marché quand même depuis quelques semaines maintenant, avec cette probable baisse des taux, est-ce que justement on sera dans un scénario où à cette potentielle baisse tout va exploser? Est-ce qu'il y aura ce qu'on appelle aussi un sell the news? Est-ce qu'on aura d'abord une baisse avant de repartir à la hausse? Comment finalement le marché va réagir? On voit déjà que l'or nous a fait un nouvel ATH pas plus tard qu'hier, il me semble. Donc forcément, il y a déjà quelques actifs qui sont plutôt bien pricés en vue de cette baisse des taux, puisque ça peut être intéressant pour tous les actifs à risque, mais pas forcément bon signe, un bon signal non plus pour l'économie américaine. Donc ça va être plutôt intéressant de voir ça. Et on vous propose aujourd'hui de regarder en fait globalement, bah voilà, comment se préparent les investisseurs, que ce soit les détenteurs d'ETF, les institutions. Où en fait, où vont les capitaux, les différents flux, potentiellement les whales, les baleines, nos fameux détenteurs à long terme, ceux qui détiennent du Bitcoin depuis 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, que font-elles? Puisque finalement, en fait, ça va nous aider aussi à nous préparer nous-mêmes. On a envie on est là pour faire de l'argent, pas forcément pour regarder notre portefeuille être dans le rouge. Donc forcément, on a envie de se préparer comme le font ceux qui sont là depuis plus longtemps que nous, potentiellement, ou ceux qui ont des meilleurs outils aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on va regarder un peu aujourd'hui.
Et donc, j'ai vu récemment passer au niveau justement de ceux qui font de l'on-chain, j'en suis très peu, mais voilà, j'essaie de suivre les 3, 4, 5 plus gros comptes, et notamment le tien aujourd'hui qui prend de plus en plus d'ampleur. Et donc, il mettait en avant que on avait eu récemment une des plus grosses décharges justement de whales long terme qu'on n'avait pas vu depuis approximativement 2022. Je crois que j'avais partagé le tweet. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer de ton côté au niveau des datas actuelles ou est-ce que ça a été comme d'habitude sur les réseaux sociaux un peu exacerbé?
Alors, ça peut être un peu exagéré puisque finalement, il me semble que c'était vers la fin août, on a eu cette fameuse grosse baleine qui a vendu plus de 80 000 bitcoins, mine de rien, en l'espace de quelques jours. Donc tout de suite, ça fait beaucoup. Par contre, c'est vrai que quand on regarde ce graphique que je vais vous partager ici, qui est disponible sur Blockunity, en fait, globalement, on voit lorsque les whales, donc tous ceux qui détiennent beaucoup de bitcoins, réaniment entre guillemets leur BTC et les envoient bah, pour principalement les vendre quand même sur les exchanges. Et on remarque bien, comme vous le voyez ici, que tous ces petits picots de couleurs qui nous montrent donc du coup les BTC détenus entre 4 et 10 ans ici en violet, on est sur, je pense, la période la plus faste pour ces vieux détenteurs de Bitcoin, puisque globalement, comme vous le voyez, elles ont quand même vendu massivement comparé au cycle de 2020-21 ou même 2016-2017. Alors pourquoi? Il y a plusieurs choses. Déjà, le prix. Forcément, si on est assis sur un fois 1000 ou un fois 10 000 selon le prix d'achat qu'ils avaient eu il y a de ça maintenant quelques années, évidemment qu'on a envie de prendre ses gains. Et puis surtout, il y a toute la phrase. Oula. Et puis surtout, il y a toute l'infrastructure maintenant qui n'existait pas auparavant, où bah, le gouvernement Trump facilite aussi cette possibilité de pouvoir vendre leur BTC sans être dans l'illégalité, sans avoir à se faire taxer énormément. Donc forcément, on a beaucoup de whales qui en profitent pour aussi prendre leur profit. Donc plus, on va dire que ce n'est dû qu'à l'action du prix, ou peut-être qu'elles ont peur de ce qui va se faire sur le marché. J'ai envie de vous dire, c'est beaucoup plus systémique, dans le sens où, pour la première fois de l'histoire, de BTC, du marché, on a les moyens de sortir largement avec, comme on l'a vu, plus de 80 000 bitcoins parfois, sans faire crasher le marché non plus, ce qui n'était pas possible en 2017, par exemple. Donc oui, on le voit ici, les whales sortent de temps en temps du marché, mais ce n'est pas forcément encore cataclysmique. Il me semble, ce n'est pas forcément ce graphique que tu avais partagé. Enfin, je ne sais plus lequel tu avais partagé par contre sur les whales qui se déchargent, mais comme on le voit, mais regardez, oui, il y a eu beaucoup de whales qui ont, enfin, comment dire, il y a eu beaucoup de bitcoins qui ont été sortis, mais globalement, quand on regarde sur cette moyenne à 30 jours, quand même depuis mars, il y avait quand même beaucoup plus d'accumulation qu'autre chose. Donc ce n'est pas parce que en une seule fois, il y a tout d'un coup un peu beaucoup de sorties que c'est-à-dire que c'est la fin du monde. C'est exactement le même principe qu'avec les ETF. Parfois, ils ont des sorties d'un milliard de capitaux, enfin de ventes d'ETF. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, mais plutôt que voilà, il y a un arbitrage, il y a un équilibrage, il y en a qui prennent leur profit, il y en a qui rechargent. C'est intéressant de le noter, mais pour l'instant, ce n'est pas non plus une vague massive de distribution d'un seul coup. Par contre, on assiste peut-être à cette fameuse rotation de BTC, de rotation, en fait, d'échange de mains de BTC, la plus grande de l'histoire entre les whales, donc les anciens particuliers, qui avaient accumulé il y a de ça maintenant des années, et les institutions qui arrivent petit à petit sur le marché. Ça, c'est clair.
C'est très intéressant et c'est exactement ce que j'étais en train de me dire d'un point de vue justement de cette rotation et de ce changement de main. On le voit au travers des ETF. D'ailleurs, je crois que pareil, c'est paru ces 24 dernières heures que BlackRock détiendrait désormais pour 100 milliards au total pour leurs clients en crypto-monnaie. Donc, ce n'est pas que Bitcoin, hein, puisque Ether petit à petit est en train aussi de se faire une place au soleil. Mais on parle depuis janvier 2024, un an et demi, 100 milliards. Donc, ça commence à faire déjà plutôt pas mal. Et on a des pools comme ça au travers des ETF qui, je ne veux pas dire un chiffre au pif parce que je n'ai pas vérifié récemment, mais déjà détiennent 1, 2, 3% du supply des 21 millions de BTC. Donc, tu ajoutes à ça après Michael Saylor MicroStrategy, les bitcoins perdus, le peu de bitcoins qui reste disponible aujourd'hui, des fois en flottant en disponibilité immédiate sur les échangeurs. Ça crée quand même cet effet de rareté exacerbée. Et comme tu l'as aussi noté, c'est vrai que ces dernières années, on a la volatilité qui tend à se casser. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle pour le développement du marché crypto. Peut-être moins bonne nouvelle pour nous qui voulons de la volatilité pour aller l'exploiter à la hausse, bien entendu. Mais ça fait aussi aujourd'hui, Bitcoin baisse beaucoup moins quand il baisse. Et ça, pour le long terme, quand même, c'est une bonne nouvelle.
Oui, tout à fait. C'est vrai que ça va être extrêmement intéressant de le surveiller. Parce que qui dit aussi de la volatilité un peu moins élevé à la hausse, mais le dit aussi à la baisse. Donc potentiellement, voilà, ça reste des tests tant que ce n'est pas vérifié, tant qu'on ne le vivra pas. Mais potentiellement, quand on ne reprendra plus des moins 80%, comme c'est arrivé en 2017-2018, où je crois un moins 75% entre le top de 2021 et le bottom de 2022. Donc ça, c'est réel. Maintenant, ce qui est plutôt intéressant de voir, c'est que, comme on l'a dit en ce début d'épisode, on voit très bien que même si ces institutions, ces entreprises, ces ETF sont là, elles ont quand même bien diminué quand même leur afflux de capitaux, ce qui fait que, ce qui explique largement pourquoi aussi Bitcoin stagne quand même pas mal, puisque comme on l'avait vu déjà il y a 15 jours, on était, il me semble, vers les 100, entre les 108 et 110 000 dollars. Bah, regardez où on est aujourd'hui, on est à l'heure où l'on tourne cette vidéo, je crois pas très loin des 113 000, 112 000. Donc bon, c'est comme si on avait cligné des yeux, si on était uniquement sur Bitcoin, on n'aurait pas vraiment vu grand-chose de différent globalement. Et là, regardez ce graphique que CryptoQuant a partagé. C'est vrai que comparativement au FOMO qu'on a eu depuis environ mai, juin, juillet ici, globalement, août et septembre, même si septembre, on n'en est qu'à un tiers du mois, mais vous le voyez très bien, il y a quand même beaucoup moins d'achats qu'auparavant. Et donc, ce fameux FOMO qu'on attend, puisqu'encore une fois, même si on attend le FOMO des retail, comme on dit, des particuliers qui vont arriver avec beaucoup d'argent, les institutions et les entreprises arrivent quand même avec des montants encore plus énormes. Donc évidemment qu'on a envie qu'elles FOMO, qu'elles arrivent massivement sur le marché pour voir BTC, Ethereum et ses copains pouvoir exploser à la hausse. Mais quand on a ces phases en fait de consolidation où les investisseurs sont plutôt à attendre de voir ce qui peut se passer avec cette fameuse baisse des taux et comment les marchés dans leur globalité vont réagir, comment l'économie va réagir, eh bien peut-être que ça explique en partie aussi pourquoi la volatilité actuelle, même là de ces quelques dernières semaines, est quand même extrêmement basse. Et à l'heure où l'on tourne cette vidéo, donc globalement avec ce qui s'est passé ces jours précédents aussi, avec quelques, encore une fois, problèmes politiques de guerre, etc. Mais forcément, on voit que Bitcoin tient quand même malgré tout les 109, 110 000 dollars. Donc, on est un marché qui, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément énormément d'arrivées de capitaux, tient quand même des niveaux que l'on avait vu aussi la semaine dernière, il y a deux semaines dans la vidéo précédente, bien des niveaux qu'on reverra tout à l'heure, mais qui sont extrêmement essentiels à tenir pour que la tendance générale reste quand même à la hausse.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, qu'on appelle le short-term holder, si je ne dis pas de bêtises, d'un point de vue on-chain. Et nous avais donné donc une zone qui tournait de souvenir à 107, 109 dans ces eaux-là.
109 000 à peu près, ouais, il me semble. Okay. C'est ouais. Ça, 108, 109.
C'était une zone où, en effet, si on passait durablement en dessous, bah, ça avait tendance à démontrer qu'on risquait d'accélérer un peu plus à la baisse.
C'est ça. Et là, pour l'instant, bah, comme vous le voyez, on est donc cette ligne rouge ici qui, justement… Alors, pourquoi, en fait, elle est importante ? Il faut quand même l'expliquer. Ce n'est pas juste une ligne pour faire joli. C'est qu'en fait, c'est le coût moyen d'acquisition de tous nos jeunes investisseurs. Ceux-là, comparés à nos hodlers, nos whales, etc., ils sont beaucoup plus… Comment dire ? Ils sont beaucoup plus impactés par toute la peur ou par toute l'euphorie qu'il y a sur le marché, à savoir le FUD, le FOMO, etc. Et donc, ils sont un peu garants justement de cette volatilité qui arrive ou non sur le marché. Ce qui, globalement, dès qu'on passe en moyenne en dessous de leur coût moyen d'acquisition, ça les fait paniquer, effet boule de neige, comme vous le voyez généralement. On arrive sur des semaines, voire des mois de consolidation, comme c'est aussi arrivé ici, par exemple, tout l'été 2024. Par contre, tant qu'on tient ces niveaux-là, comme ça nous arrive depuis quand même la mi-avril 2025, bien globalement, c'est un signe extrêmement bullish. Et là, pour l'instant, ça se maintient. Alors évidemment, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On a quand même pas mal de choses à redémontrer pour voir que le marché a de la force ou pas. Mais typiquement, c'est extrêmement intéressant de voir Bitcoin tenir ces niveaux-là. Alors, vous l'avez vu, on est passé à un moment sur les 107 000 dollars. Encore une fois, on parle de zone. Ce n'est pas grave si on baisse de 200, 500 dollars ou de 1000 dollars. Le plus important, c'est de savoir ce qui va se faire au niveau du comportement du prix ensuite. Et donc, comme on est repassé en dessous, c'est extrêmement intéressant.
Et si on corrobore ça à l'analyse technique, c'est approximativement les mêmes zones. Et en dernier recours, aujourd'hui, je pense que la véritable zone de démarcation, ça serait 100, 105 000 à partir du moment où même psychologiquement, on repasserait sous les 100 000. C'est vrai que ça serait assez difficile. Alors, on peut, comme tu viens de le dire à très juste titre, se faire peur, faire une mèche 95, 98, réintégrer les 100 et faire un run it back turbo en mode 105, 110. Ouais. Mais bon, voilà, c'est le dernier ressort, entre guillemets, qui nous séparait en effet d'une phase bien moins glorieuse.
C'est ça. Bah, tu vois, typiquement, le graphique que vous avez devant les yeux, c'est justement Alex qui me l'a préparé hier quand je lui ai dit qu'on avait notre petit épisode aujourd'hui. Globalement, donc ça, c'est quelque chose qu'il a partagé dans notre Discord. Typiquement, ce que vous voyez, c'est par exemple ce que nous, on a vu lundi durant notre live, c'est qu'au niveau on-chain, on a ces niveaux-là, mais en fait, on a des convergences avec le niveau technique, comme tu l'as dit. Par exemple, on a cette fameuse zone, encore une fois, des zones, hein, des 105 000 dollars, qui est à tenir, puisque globalement, sinon, on arrive dans quelque chose d'un peu plus négatif. Et typiquement, comme il l'a dit, voilà, on a les 61,8 de Fibonacci, donc ce fameux indicateur technique qui est extrêmement intéressant à tenir, donc voilà, autour des 105, 103. Et puis globalement, bah, comme il le dit, comme il le marque, on ne veut pas voir une réintégration de la consolidation qu'on a quand même vécue depuis novembre 2024. Donc ça en fait des mois. Le but, c'est vraiment de tenir en fait sur ces niveaux-là actuels. Et que voilà, globalement, c'est vrai, c'est typiquement le comportement du prix qu'on veut observer, c'est-à-dire vraiment au pire, comme tu l'as dit, un bon dernier V-bottom qui nous fait un peu mal, mais qui au moins on repart directement à l'attaque, comme c'est arrivé justement le 22 juin, lorsqu'on a touché les 98 000 dollars et en quelques heures, on est reparti à la hausse. C'est un peu le même schéma qui pourrait être fait, parce qu'encore une fois, il y a quand même des excès au niveau des dérivés sur les contrats futurs. Pour tous ceux qui tradent à la hausse ou à la baisse, on a quand même encore pas mal de leviers quand même qui parient à la hausse, donc forcément le marché n'aime pas trop ça, mais on peut très bien s'en sortir sans aller les liquider. En tout cas, ça, c'est vraiment les niveaux à tenir, autant, comme on l'a vu au niveau on-chain, qu'au niveau technique. Ça, c'est extrêmement important.
D'ailleurs, c'est le scénario un peu catastrophe qu'on avait eu du côté de Ether au moment où il y avait eu une très très longue consolidation sur les niveaux 1008 à 2002 avec une belle zone de pivot à 2100-2150. on chope cette zone de nouveau le 5 août. C'est là où je mettais leverage, moi, en DeFi, ouais. Par rapport à ce Yen Carry Trade, là, où on avait eu un beau point d'entrée. On remonte à 4100, on redescend à 2000 et quelques pour le casser à la baisse et finir à 1380. C'était catastrophique. Ouais.
C'est clair.
Ça, c'est un truc que je pense pas grand monde a vu venir sur ce cycle. On se voyait déjà tous à 8-10 000 sur Ether. Et donc, c'est pour ça que, ben voilà, il faut toujours prendre en considération que oui, quand bien même on a essayé d'avoir un cadrage qui est des plus logiques, des fois, le marché nous prend complètement à contre-pied. Et si on n'a pas un plan en bonne et due forme, la facture à la fin est relativement salée.
C'est clair. Et en fait, je pense que, parce que tu vois, c'est, on a le même graphique ici, mais sur Ethereum. En fait, tu fais bien de le dire, on est quand même sur deux niveaux pivots, autant sur BTC et Ethereum. Et en plus, du coup, de ce flou dans une semaine de la baisse des taux, bah, on a aussi cette configuration technique et on-chain qui fait que, voilà, on flirte quand même avec des niveaux qui donnent le doute. Donc forcément, on a beaucoup d'investisseurs qui se dérisquent et qui ne se ruent pas à l'achat comme on pourrait l'espérer. Maintenant, sur Ether, c'est exactement la même configuration. En fait, on a ces niveaux, on va dire, déjà psychologiques et techniques de tenir les 4 000 $, puisqu'auquel cas, on réintégrerait le long range qu'on a depuis quand même 2024. Donc bon, on ne veut pas essayer de revenir dedans, logique, puisque en fait, on l'a tellement travaillé quand même, on avait fait 3 sommets vers les 4000 avant enfin de la dépasser. Ce serait quand même triste d'y retourner. Maintenant, on peut y aller, vous le savez, pareil que comme BTC, refaire un V-bottom et on repasse au-dessus. Ce serait une très bonne confirmation haussière et du coup, ce qui nous amènerait à au moins une cible théorique vers les 7 000 $. En attendant, on n'y est pas. Il faut absolument qu'on tienne ces niveaux justement ici, là, comme vous le voyez, à peu près autour des 4 000 $, ce qui peut être extrêmement intéressant. Moi, j'ai des cibles légèrement plus basses au niveau on-chain, qui seraient beaucoup plus vers les 3 007, 3 008, qui correspondraient à une zone où les investisseurs devraient généralement défendre massivement, puisque beaucoup ont accumulé sur ces niveaux-là. Donc, ça va être intéressant, puisque ces 3 008 sont à peu près justement toute cette zone ici. Comme vous le voyez, on a beaucoup qui sont potentiellement, qui ont accumulé sur ces niveaux-là. Donc, évidemment qu'il ne voudrait pas repasser en dessous globalement.
Tout à fait aligné avec toi. Et donc, si on s'en fie à ce qu'on disait sur Bitcoin à l'instant, avec si un jour on y vient, puisque pour l'instant, ça a l'air quand même de consolider au-dessus des 110, mais si on venait à 100, 105, voire 95, nous faire une petite mèche, ça correspondrait en effet à la zone que tu viens de donner pour Ether, quelque part entre 3006, 3008. Mais pareil, c'est une zone qu'on ne veut pas voire durée. C'est pas une zone sur laquelle on clôture en hebdo ou en mensuel, sous peine en effet de repartir beaucoup plus bas. Et si on s'en fie toujours au Fibo, puisque je les ai affichés ici sous les yeux sur ton écran, on voit qu'on a un 0,618 plus la trend long terme qui passe autour de, allez, entre 2005 et 2700 $. Donc ça serait une bonne target pour potentiellement, lors d'un futur bear market, commencer à réaccumuler tranquillement de l'éther.
Tout à fait, exact. Ça serait quand même plutôt intéressant de voir que déjà elle augmente pas mal aussi, ce qui peut nous éviter quelques nouvelles mésaventures. Du coup, pour continuer sur l'idée de voir globalement, parce que ça c'est plutôt pas mal, c'est que hop, ce graphe-là qu'on a sur BlockUnity qui nous montre un peu, parce que je parlais de timing tout à l'heure, ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir que depuis quelques jours, maintenant un peu moins de 2 semaines, on est sur un timing qu'il estime moyen. Donc, le market timing ici, en fait, ça, c'est vraiment utilisé pour essayer de comprendre dans quelle phase on se situe. Ce qui est bien, en fait, ça ne m'inquiète pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme vous le voyez, dans ce cycle à 3 phases pour l'instant, lorsqu'on est dans cette phase orangée, c'est généralement bon signe qu'on s'approche d'un potentiel bottom. Alors, ça peut faire peur, entre guillemets, parce que comme vous le voyez, des fois, c'est... En fait, son but n'est pas de timer un bottom, mais plutôt de se dire, OK, on est dans une phase où, vu qu'il y a du doute, vu qu'il y a de la peur, vu qu'il n'y a pas énormément d'entrées de capitaux, eh bien, en fait, on se retrouve pas très loin d'un bottom. Donc oui, il faut faire attention à ce que ça ne se dégrade pas avec les niveaux qu'on vient d'évoquer justement tous les deux. Et par contre, ensuite, de se dire, OK, c'est peut-être, si on croit, encore une fois, selon les convictions personnelles, parce qu'il y en a qui disent que, évidemment, potentiellement, le top est déjà posé, que ce n'est pour l'instant que de la spéculation et on ira bien plus bas. D'autres disent que non, évidemment, il y a peut-être le dernier trimestre de 2025 qui peut être très joli. Donc, ça peut nous servir de conviction comme quoi on est donc dans une belle phase de flou, de doute, et donc que c'est peut-être un des bons moments pour réinvestir. En tout cas, on le voit au niveau, là aussi, des ETF. Vous le voyez sur BTC, ça va quand même un peu mieux comparé au mois d'août où on avait quand même beaucoup de sorties de capitaux. Là, même si hier, bon, on nous a gratifié d'un petit plus 23 millions, ce qui est un peu ridicule. C'est toujours Block Unity hein, qui tient la baraque avec plus 169 quand justement les autres prennent des profits ou vendent à perte, je ne sais pas trop. Mais globalement, ça va. Par contre, sur Ether, c'est vrai que bon, bah, lui, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours d'affilée de sortie avec aujourd'hui un petit plus 44. Donc bon, c'est intéressant de voir que eux aussi, au niveau du déploiement de capitaux, c'est encore assez timide. Ça corrobore pas mal cette phase de flou. Et généralement, si je reprends, hop, je vais l'avoir sous la main, ce qui se passe dans ces phases de flou, regardez, en général, en fait, quand on est dans des phases où il n'y a pas beaucoup d'engouement à l'achat, ça correspond à ces phases, en fait, qui nous ont servi de bonne base pour reconstruire quelque chose derrière et justement repartir à la hausse potentiellement, comme on le voit tout lors de l'été 2024, tout lors de cette phase de correction entre mars et avril 2025. Donc globalement, voilà. En fait, l'idée, c'est juste finalement de voir où est-ce que le marché veut nous amener s'il a envie de toucher la peine maximale chez les investisseurs. On l'a vu, les 105 000, les 80, enfin, passer brièvement sous les 100 000 dollars, voire les 95 000 pour justement vraiment faire peur. Et sur Ether, bah, passer sous les 4 000, ce qui est plutôt évident au niveau psychologique, ça referait quand même peur à beaucoup de monde. Donc en fait, quand on est dans une phase comme ça assez complexe où on ne sait pas ce que va faire le marché avec certitude, on essaye de voir où est-ce qu'est vraiment la peine maximale et on se dit, OK, si ici, il n'y a pas de réaction, peut-être qu'on n'est pas aussi solide qu'on le pensait et que le marché ne veut vraiment pas aller plus haut. Et donc là, il faudra peut-être changer son fusil d'épaule. Mais pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Pour l'instant, on tient quand même plutôt très bien les niveaux évoqués un peu plus tôt.
D'ailleurs, en ce moment, on peut l'observer, hein, on a une vraie cassure de volatilité de nouveau. Donc, sur la seconde quinzaine de septembre, ça va forcément dégoupiller dans un sens ou dans l'autre.
Exact. Et tu vois, là, ce graphique que j'ai ici, qui nous montre, en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est savoir le ratio entre un actif et les stablecoins. Savoir est-ce que, justement, les investisseurs ont plus, ici, par exemple, de Bitcoin dans leur poche et ont déployé tous leurs stablecoins, ou à l'inverse, est-ce qu'ils ont plus de stablecoins et sont prêts à le déployer pour réaccumuler du BTC. Là, on le voit hein, sur BTC, c'est un peu ce que l'on observe depuis maintenant 2 semaines. C'est, on a un peu terminé la distribution et on est plutôt dans une phase de, voilà, les stablecoins recommencent à être déployés, c'est encore assez timide, mais finalement, c'est un peu le même schéma que le comportement du prix. Par contre, sur Ether, regardez ça, ça fait, évidemment, depuis le mois d'avril, il y a eu un déploiement massif de stablecoins. On est allé dans cette fameuse zone de surchauffe où il y avait un réel FOMO, tellement de capitaux qui arrivaient sur Ether que évidemment en fait l'indicateur a flashé rouge et s'est dit ok, c'est beaucoup trop par rapport à l'accoutumée, du coup c'est un FOMO. Et regardez ce qui se passe depuis, Ether il voit de moins en moins de capitaux arriver et en fait le grand gagnant pour l'instant, si je vous partage celui-ci, c'est plutôt Solana qui lui, depuis typiquement le début août, voit en fait, ici en violet vous le voyez, les capitaux qui arrivent massivement et on touche un peu du doigt justement cette fameuse zone de FOMO et d'euphorie. Donc, on en est tout au début. Je ne sais pas, évidemment, je n'ai pas de boule de cristal pour vous dire combien de temps ça peut durer, si on peut aller plus haut ou si à l'inverse, tout le monde va vendre. Mais évidemment, comme vous le voyez, c'est quand même Solana qui, pour l'instant, reprend le lead plutôt bien par rapport aux deux autres actifs. Même si BTC, je trouve que ça tient très, très bien. C'est plutôt Ether. Voilà, quand même un bon x3, hein, si je ne m'abuse, depuis avril. Forcément, ça a besoin de se réinitialiser. Les investisseurs ont distribué massivement leurs coins, ont pris beaucoup de profits. Maintenant, en fait, on veut voir justement cette purge, cette réinitialisation et voir justement le comportement du prix, ce qu'il nous fera par la suite.
C'est super intéressant et c'est vrai qu'on l'avait observé également sur ETH-BTC où suite à l'envolée complètement folle d'Ether, on avait enfin un point qui était en train de se dessiner par rapport au ratio. Et c'est vrai que ça fait désormais une bonne dizaine de jours que Solana surperforme à nouveau Ether. Donc, il y a probablement quelque chose aussi à regarder, à observer de ce côté-là, en effet.
Donc après, on verra hein, ce que ça va faire. Je suis plutôt à l'aise avec la thèse que, en fait, on a vu des capitaux qui sont passés de Bitcoin, Ethereum et là repasse vers BTC, mais en plus se déverse aussi sur Solana. On va voir si ce n'est pas juste un coup d'épée dans l'eau et Solana peut nous faire une réelle explosion à la hausse parce que là, je crois qu'il est quand même passé au-dessus des 220 dollars, donc ce qui est plutôt bien. On verra si ça va durer et si tout comme c'est arrivé sur Ether, si l'écosystème Solana peut en profiter. On le voit avec PumpFun déjà qui surperforme largement le marché. Donc, ça va être intéressant de regarder. Et du coup, pour compléter là-dessus, c'est vrai que tu l'as dit sur et on l'a évoqué un peu plus tôt sur les stablecoins. En fait, ce que vous voyez ici en rouge, c'est l'agrégat total de stablecoins disponibles sur le marché. Donc, en fait, on fait typiquement depuis à peu près janvier 2025, ATH sur ATH. on a à peu près 241 millions de milliards pardon, de stablecoins disponibles. Et comme vous le voyez, comparé aux précédents catalyseurs tels que les ETF ou l'arrivée de Trump, là, en fait, il y a une préparation en amont de stablecoins qui arrivent sur le marché. Ici, ce gros pic quand même, qui en l'espace de 15 jours a été quand même multiplié par 3, l'arrivée de stablecoins sur le marché. Donc évidemment, aujourd'hui, comme me l'a répété Alex, il faut faire quand même attention puisqu'il y a maintenant des actifs traditionnels qui peuvent être achetés via des stablecoins. Donc, on va faire attention évidemment à ce que ce ne soit pas uniquement pour les déverser sur la crypto, mais typiquement, c'est quand même un très bon signal que la demande est là et elle n'attend qu'une seule chose pour déverser en fait ses capitaux sur le marché.
Ouais, c'est très intéressant parce que les stablecoins, on a pu observer par le passé deux modèles un peu inversés où on en a un, en effet, où on a pas mal de stablecoins qui sont imprimés d'un seul coup et qui viennent à être dépensés pas longtemps après. Et un autre où, sur des extrêmes, notamment quand le marché est méga en surchauffe, on voit aussi des stablecoins affluer, mais plus pour se mettre en mode retraite, tu vois, pour sortir et pas forcément de suite sortir du circuit. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a quand même des rendements, quand on regarde notamment les taux des banques centrales et tout ça, qui sont plus intéressants pour faire travailler en DeFi ces stablecoins la plupart du temps que de juste rester sur des taux qui sont autour de 2-3% pour l'euro. Encore que même, on doit même être autour de 2-2,25 peut-être aujourd'hui. Donc, bon, la majorité des stablecoins, malgré tout, est en dollars. D'ailleurs, ça, c'est aussi un gros, gros sujet et un enjeu, mais ce n'est pas forcément le sujet du jour, donc on ne va pas s'étaler là-dessus. Mais il y a un vrai enjeu vis-à-vis des États-Unis pour les stablecoins et je pense que ça fera partie, en plus des ETF, des grosses dynamiques à suivre, c'est clair et net.
Ça, c'est sûr. Je te rejoins complètement là-dessus. Ça va être très intéressant à suivre, surtout avec en plus ce qui s'est signé, je crois, en juillet, avec le Genius Act, qui justement... un peu justifier le rôle des stablecoins, qui en plus remet en perspective ce qui s'est passé en juillet avec la signature au niveau des États-Unis du Genius Act qui légitimait les stablecoins sur le marché. Donc ça lui donne encore beaucoup plus d'ampleur et d'importance que ça n'eût pu l'avoir, en tout cas par le passé. Et pour finir, écoute, je te propose qu'avant potentiellement attaquer des cibles de prix qui peuvent être intéressantes à surveiller, cette fois, on a vu les whales, on a vu aussi ce que faisaient les institutions, les entreprises avec leur trésorerie. Maintenant, en fait, les détenteurs à long terme, qu'est-ce qu'ils font de leur côté ? Eh bien, comme vous le voyez, c'est globalement, on a les whales dont les 80 000 BTC qui ont été vendus au mois d'août, qui font forcément partie de ce ratio-là. Mais comme vous le voyez, l'objectif, c'est de voir quand est-ce qu'elles sont plutôt en mode conservation, accumulation ici en bleu ou en mode distribution ici en rose. Ce qui est plutôt pas mal, c'est de voir qu'on n'est pas dans une distribution massive totale. Oui, ils prennent des gains, on ne va pas se mentir. Encore une fois, il y a cette fameuse rotation entre les hodlers et les institutions qui se fait. Et ça nous montre quand même que la demande, elle est quand même présente, puisque pour chaque vendeur, il faut bien un acheteur. Mais comme vous le voyez, elle n'est pas encore explosive. Mais voilà, on n'est pas dans un scénario catastrophe où tout le monde sort du navire. On est plutôt sur quelque chose d'assez sain pour l'instant, et surtout un Bitcoin, un Ether, qui tiennent leur niveau. Et donc, ça va être extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer d'ici une semaine. En toute transparence, vous le savez, moi de mon côté, je le dis sur notre Discord, je l'ai aussi dit dans ma vidéo de dimanche sur ma chaîne YouTube, j'étais à peu près exposé à 50-50, 50% stablecoin, 50% sur le marché. Avec le flash crash qu'il y a eu le 9 septembre, dû justement à ce conflit politique, j'ai rechargé un petit 10% en plus. Donc en fait, en fonction de ce qui va se passer et surtout des niveaux dont on va voir un peu après, j'ai des niveaux d'invalidation qui justement peuvent me dire que non, je vais peut-être changer de biais, je vais plutôt sécuriser mes capitaux, ou à l'inverse justement profiter potentiellement de ce que va nous amener le comportement du marché la semaine prochaine.
En tout cas, c'est une bonne manière de prendre les choses puisque ça permet justement d'avoir cette flexibilité. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu justement de l'incertitude, c'est une bonne répartition. Et c'est pour ça que je trouve un peu dommage aussi parfois que c'est ce que je te disais en off avant qu'on attaque l'émission. Il y ait des fois des gens qui soient permaboules et qui restent exposés, peu importe le timing de marché, peu importe la phase, etc. Alors, des fois, il y a des personnes qui accumulent du Bitcoin, etc., pour 5 ans, 10 ans. Je peux tout à fait entendre que, voilà, hein, ils ne veulent pas entendre parler d'intermédiaires ou que sais-je. Mais pour ceux qui jouent un peu plus le court terme et notamment qui sont énormément exposés aux altcoins, ça reste quand même aujourd'hui un risque qui est présent, de, le fait de potentiellement ne pas avoir sur cette fin de cycle ce à quoi on s'attendait. Et donc, il faudra quand même composer avec pour ne pas se retrouver complètement piégé à nouveau lorsque le marché se retourne. Et on sait à quel point, pour ceux qui sont là depuis quelques années, quand le marché crypto se retourne, ça ne prévient pas, ça fait très mal, ça va très vite et on n'a pas forcément le temps de se retourner justement.
Exact, exact. Après, c'est vrai que tout dépend, comme tu l'as très bien dit, de l'horizon de temps d'investissement de chacun. Si vous êtes là pour un petit mois ou profiter de cette potentielle dernière jambe haussière, ou si vous êtes là pour 10 ans, c'est vrai qu'il n'y a pas la même vision. Mais comme tu l'as dit, les alts sur 10 ans, ça, voilà, c'est quand même assez risqué, ça c'est clair. Autant BTC, ETH, ça peut aller. Mais globalement, voilà, c'est... Il y en a... Dans ma dernière vidéo, il y en a un qui justement me posait la question, voilà, qu'est-ce qui se passe si jamais le marché part 100 mois avec mes fameux 40% récents de stablecoin ? Mais c'est pas grave, parce que finalement, en fait, on est quand même dans un marché dynamique, c'est pas une équation à une seule variable. Si il part à la hausse et qu'il me confirme que c'est pas soit un faux pump ou que sais-je, quelque chose de manipulé ou autre, bien forcément, je vais m'adapter. Peut-être que j'aurais pas acheté au bottom parfait, mais en fait, quand vous voyez les hausses, comment elles se passent, regardez, entre celle qui a commencé le 6 novembre, elle s'est arrêtée le 17 décembre. Donc, au bout d'un moment, on peut rejoindre le train sans forcément FOMO non plus et acheter n'importe quoi au top. Mais globalement, je sais déjà que je suis déjà engagé. S'il y a une correction, finalement, si le marché prend la direction de la baisse, je sais très bien que j'ai des cartouches pour recharger sur les niveaux clés dont on a parlé un peu plus tôt tous les deux, CM. Et qu'en plus, si on passe sur les 95, 90, 1000 dollars, je sais que ça invalide tout mon scénario haussier. Et dans ce cas-là, je change mon fusil d'épaule. Mais auquel cas, si jamais il y a une hausse, voilà, il faut savoir que oui, on peut rater la première partie de la jambe haussière. Par exemple, ici, entre le 6 et le 13, on a quand même pris 14 000 dollars sur BTC. Eh bien, en fait, ce n'est pas très grave. Il y a eu cette phase de consolidation, correction de quelques jours. Et ensuite, on repart à la hausse. Et là, on a refait un plus 16 000 dollars. Donc, en fait, comme quoi, il y a un côté de mon portefeuille où je suis très serein, je dors très bien dedans. Et l'autre, s'il part sans moi pendant la nuit, je sais très bien que je peux me réveiller et me dire « Ok, c'est pas grave. Si les signaux sont bons, je sais très bien que je peux réinvestir et réinjecter dedans puisque j'ai les capacités de le faire. »
Et ce que vous découvrirez aussi au travers du temps, c'est que dans tous les cas, vous ne pouvez pas être 100% du temps, 100% performant sur votre portefeuille. Donc en gros, à partir du moment où vous allez commencer à développer votre portefeuille, que ce soit en crypto ou votre patrimoine par la suite, et on vous le souhaite à tous pour ne pas rester justement que en crypto, eh bien, il va falloir faire des arbitrages et des choix pour se dire, par exemple, j'ai 10-20% de cette poche de liquidité, elle va tourner à 3% à l'année. J'ai 10-20% de cette poche, ok, j'accepte d'avoir le risque maximal sur les altcoins. Et ainsi de suite pour, à la fin, avoir un rendement qui va être normalisé sur 100% de vos portefeuilles, que ce soit en actions, en crypto ou peu importe, qui va vous apporter une volatilité médiane, mais sur laquelle vous n'aurez pas 100% du risque qui sera 100% injecté en permanence sur un marché avec énormément de turbulences et sur lequel vous n'avez strictement aucune visibilité mise à part Bitcoin, voire Ether, puisque comme on l'a aussi souvent rappelé dans les dernières émissions, d'un cycle sur l'autre, c'est 95% des altcoins qui ne surperforment pas Bitcoin, voire même qui se laissent complètement mourir. Et je pense que
ça aimera beaucoup.
Ouais, je pense que sur ce cycle, ça en a été un des plus marquants exemples qui vraiment pour les alts aura complètement changé la donne. Et très certainement que c'est une cassure qui va perdurer au travers du temps et qui va démontrer que oui, le marché crypto s'est professionnalisé, a mûri, est passé de l'adolescence à l'âge adulte et désormais ne fait plus tout et n'importe quoi, n'importe comment, comme par le passé.
C'est très bien dit, je trouve, comme métaphore. C'est plutôt pas mal. Mais en tout cas, tu as tout à fait raison, et c'est vrai que c'est important de le rappeler aussi. Ce que vous voyez, que ce soit sur X, sur Twitter ou même sur YouTube, faites attention à ceux qui vous montrent des 100% de win rate, 100% de gain. Personne ne time le marché aussi bien que ça. Donc vraiment faire attention à ne pas vous comparer, à ne pas forcément FOMO n'importe comment, puisque vous voyez que certains se font des sacrés pourcentages de performance. C'est difficile, mais avant de pouvoir même gérer vos émotions, travailler sur votre stratégie, et ensuite comme ça vous aurez de quoi en fait batailler pour savoir quoi faire ou pas. Ce qui est plutôt pas mal sur BTC. Globalement, sans aller dans le graphe des gros clusters d'accumulation, par exemple, pour moi, tant qu'on n'a réatteint pas les 117, 119 000 dollars, on n'atteint pas une grosse poche, une énorme poche d'accumulation qu'il y a eu sur BTC, en fait, sur tous ces niveaux-là que vous voyez ici, quand même pendant plusieurs semaines. Et donc, pour l'instant, c'est pour ça que je ne déploierais pas forcément beaucoup plus que ça, tant qu'on ne les réatteint pas. Maintenant, si on devait exploser à la hausse, on a des paliers qui sont extrêmement intéressants, même si je pense qu'on en parlera d'ici 15 jours. Mais vu que l'explosion peut potentiellement se passer la semaine prochaine avant qu'on ait tourné notre vidéo, je vous donne quand même mes cibles, je trouve ça important. On a déjà retrouvé les 127 000 dollars. Vous le voyez, ce nuage vert ici, globalement, nous a servi de résistance déjà par trois fois, même quatre, j'ai envie de vous dire, depuis la dernière baisse que nous avions eue en avril, ici en mai, ici en juin, ici en juillet, ici en août. Et à chaque fois, on bute dessus. On n'arrive pas à passer dans ce nuage bleu comme ça nous est arrivé autant début 2024 que fin 2024. Donc pour l'instant, les 127 000, et si on les passe à la hausse, eh bien écoutez, on sera dans cette zone entre les 127 et les 143 qui sera déjà plutôt pas mal. On aura déjà pas mal de surchauffe sur le marché. Bitcoin peut évidemment aller plus haut. Le FOMO et les capitaux entrant sur le marché, c'est difficile de le timer et de l'estimer. Encore une fois, si les ETF, MicroStrategy ou qui que ce soit veut ajouter des milliards, des milliards, des milliards chaque jour, voilà, qui on est pour deviner qu'ils vont le faire. Donc évidemment, on va plutôt se baser. Moi, ce que j'aime beaucoup au niveau on-chain, c'est que je me base sur des cibles comportementales. À partir de quel niveau de prix les investisseurs, historiquement parlant, prennent leurs gains parce qu'ils en ont beaucoup dans les poches. Et donc, c'est environ entre les 127 et les 143 000 dollars. On verra comment le prix réagira. Mais pour l'instant, c'est ces targets-là que je cible sur BTC. Et comme on l'a vu à la baisse, les 105, les 103, les 95 000 dollars pour moi comme dernier palier de résistance, enfin de support. Et ensuite, ça nous aiguillera sur ce qui se passera sur le marché. Je ne sais pas si toi, tu en as des différentes avant que je passe sur Ether, mais globalement, ce serait ces niveaux-là.
Non, pas plus, pas moins. Je pense qu'on est plutôt pas mal aligné, que ça soit pour l'on-chain et l'analyse technique. Et ça a aussi le mérite de nous démontrer, même quand on prend comme ça les bandes de long terme sur 730 jours ici, comme on le voit marqué en haut, et les déviations, yes, que bah, grossièrement, voilà, si on a une fameuse dernière jambe haussière du côté de Bitcoin, il ne faudra pas s'attendre à énormément beaucoup mieux que 130, 140, 150 dans ces eaux-là. On n'est pas sur des amplitudes qui nous amènent à 200, 300 et toutes les targets qu'on avait vu passer dès début 2024.
Pour l'instant, en tout cas, ça c'est oui, clair. Un jour, je nous espère d'y aller, mais comme vous le voyez, c'est vrai que sur ce cycle, si on dézoome, on n'est pas du tout en mode parabolique. Alors peut-être que ça va arriver hein, et que le marché surprendra tout le monde. Mais quand on compare en fait les précédents cycles avec celui d'aujourd'hui, où 2017, on était vraiment une parabole, 2021 pareil. Ici, on monte bien par escalier, on monte, on fait une marche, on monte, on fait une marche, on monte, on fait une marche. Donc en fait, avec cette fameuse institutionnalisation, évidemment qu'il y a potentiellement moins de FOMO, et dans le sens où le marché pèse quand même 10 fois plus lourd qu'en 2017, donc évidemment qu'il faut beaucoup plus de capitaux pour nous faire exploser tout d'un coup, même si les stablecoins, comme on l'a vu, se préparent doucement à rentrer sur le marché, globalement, ça ne va pas forcément suffire à nous faire aller tout d'un coup à 250 000 dollars en un claquement de doigts, ça c'est sûr.
Ouais, et comme on le voit d'ailleurs, les trois rebonds, comme tu viens de le montrer, qui se sont suivis sur ce cycle de 2022 à 2025, sont petit à petit sur des amplitudes au niveau de chaque marche d'escalier qui deviennent amoindries. Donc on sent véritablement, hein, c'est pas une vue de l'esprit ou quoi que ce soit, on peut le mesurer, c'est quantifiable et c'est tangible, que petit à petit, la volatilité se casse énormément. Et c'est là où je me pose la question, en fait, peu importe où l'on finira ce cycle, ou que le cycle soit terminé, ou que sais-je, admettons que voilà, le Bitcoin top entre 125 et 150 000 dollars, que le top soit fait ou non, qu'on revienne quelque part à 50, 60, 70 000 dollars lors d'une future baisse un peu prolongée, quel sera le multiple d'après si la volatilité continue de se casser? Et c'est là où, au bout d'un moment, tu te dis, eh bien, on arrive aussi sur le potentiel cycle de plateau. Et voilà, il y a pas mal de questionnements, tu vois, qui viennent ensuite à la suite de cette réflexion, finalement.
C'est vrai. Après, j'ai beaucoup aimé cette phrase qui disait que, en fait, la bonne réponse à cette question, ce serait de voir comment les États continuent en fait leur gestion de l'économie. Et s'ils continuent dans le sens qu'ils le font aujourd'hui à vraiment faire n'importe quoi, je pense qu'on aura notre réponse sur justement le potentiel de multiples sur lequel on pourra aller, puisque Bitcoin en fait répond finalement à cette incohérence, à ce déploiement de liquidité sur le marché mondial qui fait que l'on perd notre pouvoir d'achat, que l'inflation arrive, etc. Et du coup, en fait, c'est vraiment intéressant de pouvoir se dire que en fonction de comment les États vont agir, je baserai en fait dessus un peu ma réflexion. Et c'est vrai que sur ce cycle, voir BTC dépasser les 100 000 dollars alors que il y a de ça encore 2-3 ans, c'était limite inimaginable. Je trouve que c'est une bonne réponse à ce qui se passe au niveau de l'économie actuelle, mais ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant à surveiller par la suite.
Ouais. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Du coup, tu voulais nous parler de Ether pour.
Ether, très globalement, pour terminer, on a vu les cibles à la baisse tous les deux tout à l'heure. À la hausse, globalement, le palier que je ne veux pas le palier dont je ne veux pas me servir comme d'une résistance, c'est celui-ci, cette fameuse ligne orange, où comme vous le voyez, après avoir fait. Atteint les 4000 dollars globalement en, par exemple, début 2024. Ensuite, on avait rebondi sur cette fameuse ligne jaune, donc super, très bon pattern. Par contre, on avait ensuite eu la ligne orange, ce nuage orange, justement, comme d'une résistance, tout comme en fait, c'est arrivé en décembre 2024. Donc, si on n'arrive pas à repasser au-dessus, qui aujourd'hui, elle est estimée autour des 4700, je ne donne pas forcément cher de notre ami Ethereum, mais si on passe au-dessus, ici, comme vous le voyez, après, ce sont des bandes dynamiques, donc ça s'adaptera au comportement du prix. Mais globalement, déjà, atteindre cette fameuse zone au-dessus des 5000 dollars sera un bon palier. Et ensuite, environ les 5700 sera là où, pour l'instant, j'estimerais que ce serait une surchauffe énorme sur le projet. Même si, comme vous le voyez, si on prend 2021, les bandes en fait, de prix s'adaptent vraiment au niveau du comportement du marché. Donc évidemment, pour l'instant, comme vous le voyez, on n'a pas eu ce FOMO s'il devait arriver sur Ether. Les bandes s'adapteront et peut-être qu'on montera, comme on l'a vu au niveau technique, au-dessus des 7000 dollars globalement. Je pense que vous avez tout en main pour vraiment vous faire une idée de ce que ça pourrait donner dans les jours à venir. Et maintenant, vous savez même, j'ai envie de te dire, CM, vous savez globalement comment réagir en fonction des différents scénarios et quand est-ce qu'on invaliderait nos thèses haussières. Ce qui, en tout cas, je pense, peut nous aider dans nos investissements.
Et oui, c'est un automne qui reste incertain avec un mois de septembre qui l'est tout autant et on l'a vu hein, historiquement parlant, c'est un mois qui est souvent un peu en demi-teinte pour les marchés et pas que crypto. Donc c'est le mois de la rentrée, c'est le mois de la reprise et surtout c'est le mois de la potentielle baisse de taux et le 17, c'est vraiment ce qui va se faire en juge de paix ou de guerre pour les marchés financiers puisque le plus dramatique, bien entendu, serait que suite à ce teasing d'une potentielle baisse de taux, Jérôme Poel dise « bon, ben, c'est pas pour tout de suite finalement ». Et là, ça serait un peu le champignon nucléaire, je pense, multimarché. Donc, on croise les doigts pour que le consensus qui annonce et qui avance pour l'instant 100% de baisse de taux, enfin 100% à 100%, oui. La première baisse de taux de l'automne se réalise, bien entendu, tout en ayant bien en tête que tant qu'il y a Jérôme Powell et la Fed telle qu'elle l'est, quand bien même l'administration de Trump a tendance à vouloir les pousser un peu vers la sortie tous, ou à en remplacer certains, je suppose qu'ils vont quand même garder une certaine distance vis-à-vis de ce qui est en train de se dérouler. Mmh. Et n'oublions pas que les chiffres, notamment du chômage, de l'emploi et tout ça, n'ont pas été si ouf que ça récemment. Ce qui voudrait dire, à minima, on ne va pas parler de récession et tout ça, mais que 2026 pourrait être placé sous le signe de la stagflation pour les États-Unis, donc avec une croissance un peu moindre, toujours portée très certainement par la tech, par l'IA, par Nvidia et par tout ce qui va bien. Mais là aussi, jusqu'où pourra tenir à bout de force et à bout de bras cette bulle-là? Voilà, il y a aussi pas mal de questionnements, comme on le disait en guise d'introduction, ou voire même avant l'introduction, où on a un gold en ATH, un marché crypto avec le Bitcoin qui n'est pas si loin de son ATH, le S&P 500, le Nasdaq en ATH. Donc, au bout d'un moment, il y a forcément quelque chose qui va un peu sortir de son propre rail. Et je me pose la question de quel domaine ce sera, justement.
Ouais. Très, très bonne conclusion, en tout cas, là-dessus.
Donc, merci Adrien Crypto Sapiens pour cette troisième émission. C'était toujours aussi intéressant. J'espère qu'on vous a donné toute la profondeur, la granularité qui vous permettra de naviguer au mieux pour cet automne et ce mois de septembre surtout, qui risque de pas mal faire bouger les lignes. On se retrouve d'ici une quinzaine de jours. On sera autour du 25 septembre. On aura pu digérer et voir un peu ce qui s'est passé justement sur cette seconde quinzaine de septembre. Je pense que ça sera une émission, une fois de plus, très intéressante et on continuera donc de vous donner un maximum d'informations pour vous permettre comme ça de naviguer au mieux dans cet océan déchaîné des crypto-monnaies. Merci Adrien, yes. Merci à tous et on vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao.
Merci à tout le monde. Salut CM.